Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous parle des mythes et légendes qui entourent l'un des animaux les plus sujets à controverse de notre pays. Je parle bien sûr de l'ours. J'aurai ensuite la chance de recevoir Adrien Desrousseaux, responsable pédagogique, animateur nature et accompagnateur en montagne, ainsi que Montaigne Peson, service civique au sein de l'association Pays de l'Ours, AD. Ils viennent nous parler de leur travail de sensibilisation auprès du grand public. Bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Difficile de trouver dans nos écrits et notre folklore européen un animal à la réputation plus ambiguë que celle de l'ours. Contemporain de l'être humain depuis des temps anciens, ses représentations ornent les murs des grottes habitées par nos aïeux. Révéré au temps païen, l'ours brun, Ursus arctos, règne sur les forêts et les montagnes, tantôt guerrier, tantôt seigneur. Il incarne la force dans toute sa splendeur. Il est un roi, celui de tous les animaux, bien avant le lion ou l'aigle, qui prendront sa place petit à petit après la christianisation. Le roi Arthur, le légendaire souverain, fondateur de la Table Ronde, voit son nom dérivé de l'imposant animal. Mais bien d'autres prénoms, encore utilisés aujourd'hui, viennent de notre oursidée. Björg ou encore Bernard, de Ber, la racine signifiant ours dans plusieurs langues, ainsi que Hard, fort, puissant. Aussi, de nombreuses villes le prennent comme emblème et ornent leur blason du fier animal, à l'image des villes de Berne, Berlin et Madrid. Alors que des animaux tels que le corbeau ou le loup restent connotés très négativement, il en est tout autrement pour notre ami plantigrade. Gourmand, féroce, bonnet, protecteur, peureux ou licencieux, il endosse des réputations aussi diverses que variées. Dans le roman de Renard, Brun, l'ours, siège parmi les grands seigneurs, mais se fait régulièrement rouler dans la farine par notre goupil, en échange de la promesse de quelques rayons de miel. Jean de La Fontaine met en scène l'animal de manière très différente selon ses fables. Dans L'ours et l'amateur des jardins, un ours solitaire se lie d'amitié avec un vieillard, et pendant la sieste de ce dernier, joue le rôle d'émoucheur et chasse les insectes du visage de son compagnon pendant qu'il dort. Une mouche un peu trop insistante pousse l'ours, pourtant animé de bonnes intentions, à lui jeter un pavé sur le visage, tuant sur le coup l'homme endormi. Dans La Lionne et l'ours, la femelle plantigrade est la seule qui ose prendre la parole et sermonner la souveraine, qui se plaint bruyamment de la perte de son enfant, la plaçant ainsi haut dans la société. Paradoxalement, l'ours est aussi associé à la douceur et à la protection dans d'autres représentations populaires. Tout le monde connaît Balou, le héros du Livre de la Jungle, publié en 1894 par Rudyard Kipling, et qui prend sous son aile Mowgli, le petit humain avec Bagheera, la panthère noire. Et qui n'a pas déjà reçu une peluche en forme d'ours, le fameux Teddy Bear, en hommage au président Theodore Roosevelt. Grand adepte de chasse, l'histoire raconte qu'après une journée de battue, revenu bredouille, ses rabatteurs lui proposent d'abattre un ourson blessé et attaché à un arbre qu'ils avaient réussi à capturer. Magnanime, il aurait refusé de l'abattre. L'anecdote fera la joie des caricaturistes de presse, illustrations qui inspireront Maurice Michtom et son épouse Rosa pour créer ce qui deviendra le premier ours en peluche, commercialisé dès 1903. Plus récent et plus français, on peut aussi évoquer Nounours, la star du programme de télévision Bonne nuit les petits, qui bordait les enfants français, aux côtés de Nicolas et de Pimprenelle dès 1963. On peut aussi citer l'adorable ours britannique Paddington, créé par le britannique Michael Bond, héros d'une série de 23 ouvrages parus entre 1958 et 2012. Mais les ours ne sont pas seulement mignons, avec leur gros nez et leurs petites oreilles rondes. Non, non. Les femelles sont aussi réputées être d'excellentes mères, très protectrices envers leurs petits. L'expression « ours mal léché », utilisée dans plusieurs pays, aurait pour origine des croyances anciennes, relayées entre autres par Pline l'Ancien. On croyait que les ours donnaient naissance à des petits à peine vivants et que les léchers leur donnaient leur forme définitive et leur conféreraient réellement la vie. On retrouve la même idée dans une légende grecque très connue. La nymphe Callisto était une suivante de la déesse de la chasse Artémis, qui comme elle faisait vœu de chasteté. Zeus ne le voyant pas de cet œil, et après avoir accouché de son fils Arcas, elle se fit changer en ours par Artémis ou par Héra, l'épouse jalouse du dieu selon les versions. Héritier du roi d'Arcadie, Lycaon, Arcas grandit à la cour et l'ours Callisto veille sur lui de loin. Une fois adulte, il la met en joue lors d'une partie de chasse, ignorant qu'il s'agit en réalité de sa mère métamorphosée. Et Zeus, pour éviter le drame, transforme Arcas en ourson et l'envoie en sécurité avec Callisto dans les étoiles, donnant ainsi naissance aux constellations les plus visibles et faciles à identifier de notre ciel, la petite et la grande ours. Même s'il ne s'agit que de cinéma, il est aussi question de protection dans le film « L'ours » de Jean-Jacques Haneau. Il met en scène un ourson orphelin adopté par un mâle grizzly adulte et leurs aventures. Bien que l'on soit assez loin de la réalité biologique, l'histoire émeut et reste un succès éclatant du box-office, plaçant le film numéro 2 de l'année 1988 avec plus de 9 millions d'entrées au cinéma. Mais l'ours n'est pas que peluche et douceur. L'Église l'associe au diable et le condamne pour des comportements jugés répréhensibles. S'accouplant, dit-on, comme les humains, selon les bestiaires anciens, on lui attribue une sexualité débridée et donc tout à fait intolérable. L'ours, au même titre que le cochon et le singe, qui sont les animaux que l'on rapproche le plus souvent de l'humain, partage aussi ses péchés. Si l'ours met au monde des petits tout juste formés, selon les croyances, c'est qu'elle est trop impatiente de s'accoupler à nouveau et hâte sa mise bas. De nombreux contes populaires font mention d'unions contre nature entre des ours et des jeunes femmes. Le récit le plus populaire est sans conteste celui qui met en scène Jean de l'ours. Né dans une caverne, fils d'un ours, il est doté d'une force surhumaine et son corps est recouvert de poils. Il part à l'aventure avec des compagnons aussi forts que lui et libère des princesses prisonnières du diable et d'un puits qu'il prend comme épouse après avoir déjoué les embûches et la traîtrise de ses compagnons. Le conte se conclut en disant qu'il eut beaucoup, beaucoup d'enfants qui repeuplèrent la montagne. L'histoire de Jean de l'Ours vit encore aujourd'hui et chaque année à la Chandeleur, pour célébrer le printemps, une drôle de fête a lieu dans le Haut-Vallespir, dans les Pyrénées-Orientales. Trois communes, Arles-sur-Tech, Prats-de-Molo-la-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans, organisent le jour de l'ours. Un homme, avatar du héros de conte, déguisé d'une peau d'ours, barbouillé de cirage ou de suie, déambule dans le village pour faire le spectacle. Il court, chante, danse avec son bâton, et chaque valse se conclut par une embrassade musclée. À l'origine, l'ours ciblait tout particulièrement les jeunes filles, mais aujourd'hui tout le monde y a droit. Le jeu consiste donc à éviter ou recevoir le cirage sur les joues. Après avoir couru dans tout le village, l'ours est rattrapé par les barbiers qui l'attrapent, le ligotent et le rasent. Et sous les poils de l'ours, c'est bien un homme que l'on retrouve. Révéré pour sa force, craint pour sa vigueur, on sait au final peu de choses de l'ours, cet animal étrange qui disparaît mystérieusement pendant plusieurs mois et renaît à chaque printemps. En préparant cette chronique, j'ai cherché des publications scientifiques sur son comportement en nature, son intelligence, sa vie sociale. Et elles sont rares. La plupart d'entre elles, pour ce qui est de l'Europe du moins, se focalisent sur la conservation de l'ours, sur l'évaluation génétique des populations et sur sa cohabitation tumultueuse avec l'humain. Impensable de croire un tel titan si fragile. Et pourtant. Discret bipède errant dans nos montagnes, omnivore gourmand, et si finalement on craignait l'ours parce qu'il nous ressemble tant. Et nous revoici avec nos invités, Adrien Desrousseau, responsable pédagogique, animateur nature et accompagnateur en montagne, ainsi que Montaigne Peson, service civique au sein de l'association Pays de l'Ours AD. Alors, avant toute chose, et pour commencer les hostilités, est-ce qu'on peut essayer de connaître un peu mieux notre voisin l'ours brun ? Où est-ce qu'on peut le trouver ?
L'ours brun, on peut le trouver dans pas mal d'endroits dans le monde, dans l'hémisphère nord. Voilà, c'est le seul... Tant qu'on est dans l'hémisphère nord, on peut trouver des ours bruns. On en trouve en Amérique du Nord, sous le nom de grizzly. C'est bien la même espèce, Ursus arctos. Donc, il se trouve en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Et on en trouve également donc, en Europe, Europe du Nord, Europe centrale, Europe de l'Est. Et puis en Asie, en Russie notamment, et au nord du Japon, par exemple.
Ah, jusqu'au Japon. Donc c'est vraiment un animal qui a su coloniser tout l'hémisphère nord.
Voilà, c'est un animal qui s'adapte très très bien à différents milieux de vie. La seule caractéristique qui est commune à tous ces ours, c'est qu'ils vivent dans la forêt. Et ça, c'est vraiment important. L'ours est un animal de forêt, pas de montagne.
D'accord.
Souvent, on imagine qu'il est à la montagne parce que nos ours, ceux qui sont présents dans les Pyrénées, sont effectivement à la montagne. Mais ils sont essentiellement dans la forêt.
Donc, on ne le trouve pas, par exemple, dans des milieux découverts, en plaine. C'est difficile de l'imaginer. Il faut vraiment que ce soit boisé, quoi. C'est là
qu'il faut que ce soit boisé. Ouais. Ensuite, l'ours peut, lors de quelques escapades, sortir de la forêt. Mais son milieu de vie, c'est vraiment la forêt. Sans forêt, il n'y a pas d'ours.
Pas d'ours. Et en France, on le trouve aujourd'hui uniquement dans les Pyrénées. Il n'y en a pas dans les Alpes, dans le Jura, c'est vraiment que les Pyrénées.
Alors, il y en a dans les Alpes, mais pas françaises.
Côté italien.
Voilà. Ouais. Mais actuellement, en France, la seule zone où on trouve des ours bruns, c'est dans les Pyrénées.
Alors, on l'a vu un petit peu dans la culture populaire, les ours ont été décrits comme gourmands, amateurs de miel. C'est vrai qu'il y a aussi Winnie l'ourson que je n'ai pas évoqué. Mais ils font aussi la une des journaux pour le régime carnivore. Alors, en vrai, qu'est-ce que ça mange un ours ?
Alors, l'ours est un animal omnivore, c'est-à-dire que son régime alimentaire est composé à la fois de végétaux et également de viande. Et donc, en ce qui concerne l'ours, on va avoir 80% du régime qui se concentre autour de baies, de végétaux, d'herbes. Et dans les 20% restants, on va avoir une moitié d'insectes. Ça paraît peut-être étonnant, mais l'ours peut se nourrir de larves, de fourmis. Et enfin, les 10% restants peuvent être soit des carcasses ou bien... Des animaux qu'il peut chasser. Mais dans tous les cas, l'ours est un animal opportuniste qui est également fainéant et va donc chercher à privilégier une proie facile ou bien va toujours aller plus vers une carcasse que s'embêter à aller poursuivre un animal.
Ah bah, on le comprend, autant s'économiser. Donc ça veut dire que, parce qu'on imagine un très gros animal. C'est vrai qu'un ours brun, ça fait quelle taille, quel poids ? C'est vrai que ce sont des animaux massifs. On a du mal à imaginer que juste brouter de l'herbe leur suffise en apport calorique, quoi. Mais...
Alors, au niveau de la taille et du poids, c'est variable selon les ours et les régions qu'on a évoquées tout à l'heure. En ce qui concerne les ours dans les Pyrénées, en Europe centrale de manière générale, on a des animaux pour les plus grands, on va dire, qui atteignent 1 mètre au garrot.
Ouais.
1 mètre, 1 mètre 10 pour les vraiment très très grands. Et puis, donc ça c'est en général des mâles. Et les femelles sont plus petites et font, on va dire, 80-90 cm au garrot. Ce qui est pas petit, mais ce qui est quand même plus petit que ce qu'on imagine habituellement.
C'est vrai.
Voilà, on l'imagine très très gros parce qu'on a comme référence notamment les grizzlies qui sont plus grands et plus lourds que les ours européens. Mais ceux d'ici, voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont petits, mais ils ne sont pas aussi gros que ce qu'on imagine.
Et puis c'est vrai que souvent, en tout cas dans les films, dans les images, les représentations populaires, on représente assez souvent l'ours bipède, qui justement se déplace sur deux pattes, donc il paraît beaucoup plus imposant aussi.
Effectivement, la stature debout est forcément plus impressionnante. C'est une position qu'il adopte... pas souvent. Quand il se déplace, il est à quatre pattes. Par contre, il se met sur deux pattes uniquement, alors dans plusieurs cas de figure, pour se nourrir, par exemple, pour aller chercher des baies ou des bourgeons en haut des branches. Il se met debout pour se gratter sur les arbres aussi. Et puis, l'ours ayant une mauvaise vue, il peut se mettre debout en cas de rencontre avec un autre animal. Ou un humain, se mettre debout pour mieux du coup percevoir ce qu'il a en face de lui et mieux appréhender l'animal qu'il a en face de lui.
Donc on disait c'est un animal plutôt qui vit dans la forêt, qui se nourrit de tout. Du coup, quel rôle est-ce qu'il va jouer dans l'écosystème ? Est-ce que c'est plutôt un nettoyeur parce qu'il va nous débarrasser des carcasses ? C'est vrai que souvent on parle des grands prédateurs comme les loups en disant qu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire, mais l'ours, du coup, c'est assez différent, j'imagine.
Alors, c'est une question qui n'est pas facile. il a un rôle d'ours. il est présent et il n'a pas un rôle différent des autres animaux, c'est-à-dire qu'il est là et il fait partie, comme tous les autres animaux, d'une chaîne alimentaire et de d'autres relations qu'il peut y avoir entre les animaux. On a du mal à toujours vouloir justifier la présence de tel ou tel animal parce qu'il aurait un rôle supposé. Voilà. Pour nous, chaque être vivant, qu'il soit un ours ou autre chose, il est là, il est présent, comme nous, et il n'y a pas besoin d'aller chercher une raison pour essayer de justifier sa présence.
Sa présence, tout à fait. Et on l'évoquait un tout petit peu au niveau de sa vie sociale. Comment est-ce que ça vit les ours ? Est-ce qu'ils sont en solitaire ? Est-ce qu'ils vivent à plusieurs ?
Donc l'ours est un animal solitaire. Il a du mal à supporter la présence même d'autres ours. Le seul moment où éventuellement c'est toléré et même plutôt recherché, c'est au printemps pour les accouplements, mais c'est le seul moment. Et si un autre moment, c'est la femelle avec ses oursons, ou dans ce cas-là, on peut effectivement croiser plusieurs ours ensemble, mais des ours adultes ensemble, ça se rencontre pas, ou alors très rarement, si on a la chance d'observer un accouplement ou en tout cas une parade amoureuse de l'ours au moment du printemps.
Donc ça veut dire, oui, vraiment, il ne se tolère pas du tout. Le mâle n'aide pas du tout la femelle au moment de l'élevage des jeunes.
Lui,
seule.
Il n'est même pas au courant qu'il a des petits.
Je vois. Et les petits, ils restent longtemps avec leur mère ?
Donc les petits vont rester... en Europe, c'est autour de un an, pas tout à fait et demi, que les petits restent avec leur mère. Et ensuite, ils sont émancipés la mère leur fait clairement comprendre que
c'est
voilà,
bon.
Maintenant, c'est bon, ils sont grands. Et donc, comme ce sont des animaux solitaires, qu'il est temps d'aller faire sa vie loin d'elle.
Loin d'ailleurs. Puis j'imagine que, en tout cas, ça c'est peut-être le cas avec les Pyrénées, vu qu'on a peu d'individus, il faut quand même qu'ils s'éparpillent assez vite. Parce que je ne sais pas si c'est risqué qu'un petit reste sur un territoire proche de celui de sa mère. Si, bon, niveau consanguinité, est-ce que ça existe ?
Alors justement, pour régler ça, le problème de consanguinité, les ours, de manière naturelle, les ours mâles vont quitter la mère et faire un grand déplacement pour aller s'installer sur un territoire qui est assez éloigné de celui de leur mère. Alors que les ours femelles, les jeunes ours femelles, vont s'éloigner du territoire de leur mère, mais très peu, et okay. peuvent avoir un territoire qui est proche, voire qui est...
Qui se
superpose. Pour justement éviter la consanguinité. Ce qui fait que les jeunes mâles, au moment où, au printemps, il leur prendra l'envie de se reproduire... tomberont normalement sur des femelles qui ne sont ni leur mère, ni leur sœur.
Qui ne sont pas apparentées. Ouais.
Ça, c'est dans une population, on va dire, normale, avec suffisamment d'individus. Dans les Pyrénées, il se trouve qu'il y a très peu de gènes, il y a beaucoup de consanguinité. Et du coup, les femelles sont toutes localisées quasiment au même endroit, dans les Pyrénées centrales.
D'accord.
Et donc les mâles, ils sont allés effectivement s'installer loin, et donc il n'y a pas de femelles dans ce secteur-là, et donc ils ne trouvent pas, soit ils décident de revenir sur leurs pas parce qu'ils savent où il y a des femelles, mais donc c'est des ours de la même famille, et donc la consanguinité perdure.
Alors justement, pour rebondir là-dessus, donc les Pyrénées, c'est le dernier endroit en France où on trouve des ours bruns. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien est-ce qu'on trouve d'ours dans les Pyrénées ?
Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas donner un nombre précis. Par contre, on sait sur l'année 2019, à la fois sur les Pyrénées espagnoles et françaises, on a dénombré au minimum 52 individus.
D'accord.
Et après, on peut également dire que cette année, on a relevé la présence d'au moins 10 oursons sur toutes les Pyrénées. Donc, on peut penser que pour l'année 2020, on sera autour de 62 ours.
En ajoutant ceux qui seraient nés cette année, du coup, qu'on
voilà,
a pas encore
pu
observer.
Mais après, on ne peut jamais savoir s'il y a des oursons qui seraient morts qu'on n'aurait pas comptés ou des oursons qu'on n'aurait tout simplement pas aperçus.
Et ça, pour essayer d'estimer un petit peu la population pyrénéenne, comment est-ce qu'on s'y prend ? Parce qu'on l'a dit, c'est un animal très difficile à observer, donc on ne peut pas juste les compter comme un vol d'oiseau. Comment est-ce qu'on peut essayer d'estimer cette population au plus juste ?
Alors, on a différentes techniques de suivi scientifique. Tout d'abord, le collier GPS. Toutefois, cet outil est utilisé uniquement lorsqu'un ours est lâché. Donc, par exemple, les ours qui avaient été capturés en Slovénie, puis relâchés dans les Pyrénées, étaient équipés d'un collier. Et ce collier fonctionne généralement autour d'un an ou un peu plus, okay. Mais au bout d'un moment, il cesse d'émettre. Donc, son objectif principal n'est pas de savoir, de suivre tout au long de sa vie l'ours, mais surtout de savoir où il va s'installer.
Oui, c'est ça, juste après le lâcher, quoi.
Voilà, c'est ouais. ça. Parce que, bien sûr, un ours qui est lâché dans les Pyrénées va bouger beaucoup et donc chercher à s'établir. Et donc, nous, on va chercher à savoir où il va décider de s'installer. Et donc, ça, c'est une première technique. Et ensuite, il y a différents... autres moyens, comme par exemple les caméras pièges qui sont, que l'on place à des endroits stratégiques et on peut repérer le passage de certains individus. Toutefois, on ne peut pas savoir avec certitude de quel individu il s'agit.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, j'imagine qu'il passe à des moments où la visibilité est restreinte, au crépuscule, tombée du... Donc, pour les identifier, à moins d'avoir des trombinoscopes très très précis...
Comme... Alors, oui, c'est plus compliqué, ça ne marche pas comme avec les dauphins où on va avoir certains petits détails sur le corps. Non, le meilleur outil reste l'outil génétique. Par exemple, grâce à des pièges à poils, qui sont en fait un petit fil de barbelé que l'on place sur un arbre, et l'ours qui vient régulièrement se gratter, va donc déposer certains de ses poils, et par analyse génétique, on peut retracer soit connaître donc le code génétique de cet ours et savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, ou bien si c'est un code que l'on connaît déjà, savoir exactement de quel individu il s'agit. Ah.
Mais ça veut dire que, ouais, il faut savoir spécifiquement qu'il y a des ours dans ces coins-là pour mettre des pièges vraiment à des endroits stratégiques pour être sûr de récupérer des choses, quoi.
Alors, pour l'endroit où on place les pièges, on commence à avoir une habitude de les suivre et donc on connaît mieux leur comportement et on sait que les ours, comme les autres animaux, en fait, se déplacent sur les chemins.
D'accord. C'est plus pratique.
voilà. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu des fainéants. Donc, des fainéants
ils s'économisent.
Donc voilà, ils s'économisent. Mais la plupart des animaux font ça. Hein. Quand on place d'ailleurs nos caméras automatiques, les pièges photos, on ne voit pas que des ours. On voit tous les animaux de la forêt et ils passent clairement sur les chemins. Alors bien sûr, ils peuvent sortir du chemin. Mais sur les phases de déplacement, c'est vraiment le chemin. Et donc, nous, on va placer nos pièges, pas au milieu de la forêt, nulle part, on va les placer sur les chemins. Voilà, et ensuite, il y a certains arbres qui sont bien placés, qu'on commence à reconnaître, notamment des arbres qui sont très proches du chemin, sur lesquels on va pouvoir y placer nos fameux pièges à poils, les petits morceaux de barbelés, pour récolter les poils.
Et on parle de territoire, mais est-ce qu'un ours, mâle ou femelle, garde le même territoire toute sa vie ou est-ce qu'il va avoir tendance à bouger ?
Ils ont globalement le même territoire. Après, encore une fois, dans les Pyrénées, on est sur une population qui est fragile et avec des particularités, notamment de ce qu'on évoquait tout à l'heure, des femelles qui sont toutes regroupées au même endroit.
Ouais.
Et donc, on a des comportements qui, a priori, n'ont pas lieu dans d'autres populations. Un ours qui est installé, s'il a tout ce qu'il faut,
il reste.
En termes d'alimentation, en termes de coins tranquilles et de possibilité de se reproduire, il n'y a pas de raison qu'il change d'endroit.
Alors, donc, les Pyrénées, on disait, c'est vraiment un cas particulier. Ça avait fait grand bruit, je crois que c'était en 2004, quand il y avait eu la disparition de Cannelle, qu'on appelait être la dernière ours de souche pyrénéenne. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les ours que l'on trouve dans les Pyrénées et les autres ours d'Europe, pour Sous-Arctos ? Est-ce qu'il y a vraiment une souche pyrénéenne avec des différences de morphologie, de comportement, ou c'est un ours brun comme les autres ?
Alors, les ours bruns qui sont présents dans les Pyrénées, françaises et espagnoles, sont de la même espèce que tous les autres ours qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, c'est la même espèce, Ursus arctos, partout en Europe.
D'accord.
il y a pourtant une petite différence qui se trouve dans la génétique, mais qui est tellement faible. Là, c'est juste, on parle de lignée, donc en gros, c'est pas suffisamment important, ces différences génétiques, pour que des comportements soient différents, pour que l'alimentation soit différente, etc. C'est vraiment les mêmes ours, de la ouais. même taille et du même comportement que tous les autres ours en Europe. Ensuite, effectivement, c'est une histoire de lignée génétique. Et souvent, on le met en exergue parce qu'on est attaché aux ours, nos ours, comme on l'entend souvent, nos ours des Pyrénées. Mais il n'y a pas de différence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu faire ces renforcements de population en allant chercher des ours dans d'autres pays, la Slovénie en l'occurrence, parce que les ours slovènes sont les mêmes que les ours
des Pyrénées.
Dans les Pyrénées.
Ok. On vous laisse swinguer, tel Balou, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Incomfortable du groupe Salt. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui deux invités. Adrien Desrosseaux, responsable pédagogique, animateur nature et accompagnateur de montagne, ainsi que Montaigne Peson, service civique au sein de l'association Pays de l'Ours, AD. Alors, on parlait largement de la biologie de notre oursidé préféré dans la première partie de l'émission. Je voulais vous poser quelques questions sur l'association Pays de l'Ours, AD. Depuis quand existe-t-elle ?
Alors, l'association a été créée en 1991 et elle a la particularité d'avoir été créée par un regroupement de communes.
D'accord.
Donc, c'est quatre communes de montagne dans la vallée de Saint-Béal, donc pour les cités Mel, Arlos, Foss et Boots, donc la commune sur laquelle il y a la station de ski du Mourtis. Ces quatre communes donc, se sont regroupées en association en disant qu'ils allaient essayer de développer l'économie et le tourisme de leur vallée en utilisant l'image de l'ours.
Donc une première tentative de tourisme centré autour de l'animal, hein, pour faire venir en tout cas des gens intéressés par l'animal.
Tourisme, ouais. De tourisme pour le coup responsable. L'idée, c'était pas de créer un gros pôle d'attraction énorme avec énormément de touristes. C'était déjà de, comme la plupart des villes et villages en montagne, d'essayer d'empêcher cette déprise qui marque encore fortement le territoire. Mais du coup, en utilisant l'ours comme allié.
Et quelles sont les principales missions de cette association ?
Donc la première des missions, c'est le renforcement de la population d'ours et empêcher l'ours brun de disparaître de nos montagnes. Sachant que l'ours, on n'en a pas parlé, mais n'a jamais disparu des Pyrénées. Il est présent depuis le Néolithique. Alors certes, il a failli disparaître, mais grâce aux premiers lâchers qui ont eu lieu donc sur la commune de Mel, la disparition a été évitée.
Parce qu'au moment de la création de l'asso, le nombre d'ours dans les Pyrénées, alors avant ces premiers lâchers, il était très faible. Il restait combien d'individus ?
Alors on comptait pas les ours comme maintenant. Les estimations, c'est qu'au moment des premiers lâchers, il restait 5 à 6 ours.
Ouais, donc vraiment la fin.
Voilà,
quoi.
5 à 6 ours avec une énorme consanguinité, donc vraiment la possibilité de succès sans passer par des lâchers était vraiment très faible.
Très restreint. Et donc on parle des lâchers. Depuis la création de l'association, combien est-ce que d'ours ont été comme ça réintroduits dans les Pyrénées ?
Alors il y en a eu 11, dont 10 par côté français et donc un côté espagnol. Sachant que les deux dernières ours ont été lâchées en Béarn en 2018.
Et ce sont principalement des femelles, c'est ça ? L'idée, c'est d'avoir... on a quelques ours mâles, mais...
Les deux, mais surtout des femelles, parce que c'est elles qui font les petits, et que l'idée, c'est quand même de repeupler les montagnes.
Et tous ces ours viennent de Slovénie ?
Oui.
Ok. Et ça veut dire que ce sont des animaux sauvages qui sont prélevés, qu'on transporte et qu'on remet dans les Pyrénées directement ?
Exactement.
Ils ne passent pas du tout par des centres de semi-captivité ?
Non.
D'accord.
Non, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible. On les prend en Slovénie pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas si loin que ça. Alors, on pourrait les prendre en Espagne, mais ils n'en ont pas beaucoup plus. Sachant qu'en Espagne, on a... deux populations d'ours. Il y a la population pyrénéenne qui est la même que la nôtre, et ils ont une autre population dans les monts cantabriques. Mais dans cette population-là, elle est elle aussi faible, un peu mieux que la nôtre, mais elle est quand même assez faible, et donc on ne va pas prélever ces ours sur cette population qui est faible. Donc on choisit la Slovénie, parce que c'est proche, parce que le biotope est le même, ça c'est vraiment très important, on est sur les mêmes latitudes. Donc le climat est le même, la végétation est la même, donc ça c'est vraiment très très important. Et puis surtout il y a une expertise locale et on a des contacts là-bas qui facilitent aussi la tâche.
Et le transport, j'imagine, ça se fait par la route ?
Transport par la route, un ours c'est pas si grand que ça, ça rentre
c'est vrai, on
dans
le disait
une petite camionnette, ça suffit.
Et donc pouf, on arrive, on met dans une cage et on libère aussi.
Voilà, bon, il y a tout un cycle on vérifie au niveau sanitaire, et on vérifie que ce soit un ours qui corresponde aux critères. Par exemple, un ours trop jeune pourrait plus difficilement supporter on sait que c'est des animaux qui s'adaptent bien. Mais on va pas jouer non plus. On prend des animaux qui ont un peu d'expérience pour s'assurer de la réussite du transfert.
Du transfert, tout à fait, qui sont vraiment dans la force de l'âge. Mmh. Alors, donc, la première mission de l'asso, c'est donc maintenir autant que faire se peut l'ours des Pyrénées dans nos montagnes. Mais vous avez aussi tout un travail de sensibilisation auprès du public des questions de l'ours. Du coup, je voulais savoir un peu comment vous y preniez, vous.
Alors, il y a plein de choses. On peut, par exemple, faire des émissions de radio.
Tout à fait.
Pour en parler. Donc, la partie information du public, elle passe par des animations. Donc, ça, c'est essentiellement mon rôle au sein de l'association. des animations dans les écoles, des stands d'information, on peut faire des conférences. Voilà, ça c'est vraiment l'information en contact direct avec le public. Et puis on a tout un volet en indirect, j'allais dire, en distribuant des brochures d'information, les moyens multimédia, site internet aussi, bien sûr, les comptes de réseaux sociaux, pour pouvoir essayer d'informer au maximum les gens et qu'ils aient l'information la plus juste possible sur les ours.
Et est-ce que votre asso intervient aussi au niveau, je veux dire juridique, mais ce n'est pas le bon terme, mais intervenir au niveau des municipalités, etc., quand il y a des soucis de cohabitation avec l'ours ou quand il faut parler du côté plus un peu géopolitique de l'ours?
Alors, au niveau politique, nous, on a des interventions qui se font à différents niveaux et qui sont surtout pour la préservation de l'espèce, donc la première mission. Ensuite, auprès des communes, par exemple, on peut avoir une mission de conseil ou d'explication, mais comme la population générale, en fait, pour que ensuite la commune puisse avoir de l'information sur l'état de la population, sur son territoire, sachant que, comme on a expliqué, on ne suit pas les ours minute par minute, donc on ne peut pas donner de localisation précise. Par contre, on peut donner une estimation de la population et puis des conseils sur comment se comporter par rapport à ça.
Tout à fait. Alors, vous êtes aussi accompagnateur de montagne, on l'a dit, donc ça veut dire que au sein de l'association, vous proposez des chemins de randonnée, des sorties avec du public, c'est ça?
Voilà, on a différents types de sorties qu'on propose aux gens, et notamment une où on leur propose de participer directement au suivi de l'ours. Et donc on les emmène en montagne sur des endroits fréquentés par les ours. Et l'idée de ces randonnées, c'est que les gens puissent, accompagnés avec moi notamment, récolter les indices de présence si on en trouve, et que ces indices-là servent réellement au suivi. C'est-à-dire que la randonnée a deux vocations. Une vocation pédagogique pour parler de l'ours et pour expliquer comment on fait le suivi. Mais que ce qu'on relève serve réellement. Donc il y a tout un protocole scientifique à respecter. Mais ensuite, ces indices-là servent réellement à établir le comptage des ours en fin de saison.
Donc ça veut dire que ça peut être aussi bien, on parlait des pièges à poils tout à l'heure, mais c'est aussi les empreintes, les crottes, des pièges photos aussi.
Exactement. Ouais. On a plusieurs appareils photos. On relève directement sur le terrain. Donc on a une tablette qui nous permet de lire la carte contenu dans l'appareil photo en direct et voir si l'ours est passé. Donc on a la primeur quand l'ours est passé. Les gens sont les premiers à le voir.
Et ces informations, du coup, viennent grossir la base de données et viennent enrichir les données qui sont collectées chaque année.
Exactement. Okay.
Alors la grande question, donc vous suivez l'ours de près, si vous voyez ses poils, ses pattes, ses crottes, mais la grande question c'est, est-ce que vous l'avez déjà croisé?
Alors, je ne l'ai jamais croisé directement comme ça, pour la simple et bonne raison que quand je vais en montagne, je suis souvent accompagné avec des groupes, justement, et que ce n'est pas forcément le
plus silencieux.
Le plus silencieux et le meilleur moyen de le croiser. L'ours est un animal aussi plutôt crépusculaire. Il n'est pas complètement nocturne, donc on peut le croiser en journée, mais la plupart du temps, ce n'est pas sa période où il est le plus actif. Donc ça fait aussi, tout ça cumulé fait que, plus le fait qu'il est discret et qu'il a un odorat très développé et qu'il nous sent arriver avant même que...
Oui, c'est ça, parce qu'il a une très mauvaise vue, c'est ça, il a des petits yeux et il ne voit pas très bien, mais au niveau
de... Il ne voit pas très bien, par contre, l'odorat, c'est...
Ça marche bien.
Ça marche pas très bien.
Parce que c'est vrai que là aussi, on a toujours cette idée qui est faussement véhiculée par les médias, que c'est un animal, on l'entend toujours grogner, faire du bruit, mais au final, un ours peut être peut-être très discret.
Ils sont plutôt discrets, et notamment la voix. Alors si, ils peuvent grogner, mais c'est assez, assez rare, assez discret. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des animaux solitaires, donc ils n'ont pas besoin de communiquer avec les autres, donc ils font très peu de bruit.
Alors, je voulais aussi aborder un petit peu avec vous donc, le côté, malheureusement, pour lequel ils sont le plus médiatisés. Donc, ça arrive qu'il y ait des attaques d'ours. C'est souvent celles qui font la une des journaux. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de combien d'animaux domestiques peuvent être tués par l'ours chaque année dans les Pyrénées, ou est-ce que c'est difficile à évaluer?
Alors, on a une idée. Et c'est pas facile
j'imagine.
De le savoir malgré tout. On a quand même une idée puisque des expertises sont réalisées quand les éleveurs découvrent un animal qui aurait été tué par l'ours. En tout cas, souvent c'est pour ça qu'ils appellent. Il y a une équipe qui monte pour pouvoir faire une expertise. Et quand c'est l'ours et si l'animal est mort de manière assez récente, on peut voir des traces qui ne trahissent pas. Voilà, l'ours a une manière de prédater qui lui est propre et donc on peut le savoir. Et donc quand l'expertise est réalisée, là sur les dernières années, on est en moyenne entre 100 et 200 brebis, puisque c'est essentiellement des brebis qui sont prédatées. Qui sont attribués à l'ours sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne.
Des deux côtés, du coup, France et Espagne ? Ou surtout côté français ?
Bonne question. Mais il me semble que c'est côté français.
D'accord. Donc à peu près 200 individus domestiques qu'on attribue à l'ours chaque année.
Voilà. Okay. Ça, c'est à peu près ce qu'on a, sachant que là, les deux, trois dernières années, il y a un peu des choses étranges et certainement des abus au niveau de la manière dont sont comptabilisées les brebis, puisque on était à entre 100 et 200 et puis là ça monte énormément. Okay. On est à 1300 à peu près dossiers d'indemnisation l'an dernier.
C'est beaucoup plus.
Sauf que dans les 1300, nous, on trouve que c'est assez bizarre que ça puisse être du fait de l'ours, sachant que si on compare les prédations avec les autres pays européens qui ont aussi des prédations d'ours, en général, si on remet le nombre de brebis tuées par l'ours par an, on est à 1,5.
Voilà. Ouais.
Il y a à peu près une brebis et demie, deux, qui sont prédatées par l'ours par an en Europe. Et donc en France, on est à 31.
Ouais,
c'est-à-dire
ce
quasiment
énorme.
Autant que le loup, et qui est, c'est assez bizarre, puisque au niveau biologique, ça ne correspond pas du tout à la réalité, quoi. Un ours qui est 80% herbivore, qui fasse autant de dégâts qu'un loup qui est 100% carnivore, ça
puis qui vivent en meute et qui n'ont pas du tout le même fonctionnement, quoi.
Voilà, donc il y a certainement quelques dysfonctionnements dans la manière de comptabiliser.
Surtout que le nombre d'ours n'a pas augmenté de manière drastique. On pourrait dire s'il y a beaucoup plus d'ours, il y aurait beaucoup plus de prédation, mais là...
Il y a plus d'ours, hein, clairement, d'année en année, mais on a, dans les années, on va dire il y a 5-6 ans, on voyait déjà cette augmentation du nombre d'ours, et pourtant on ne voyait pas d'augmentation des prédations, donc il n'y a pas de lien entre les deux.
Et est-ce qu'il y a des moments, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, l'un des comportements les plus notables de l'ours, c'est cette capacité à passer l'hiver au chaud, à hiberner. Est-ce que l'ours va être par exemple plus amateur de viande pour préparer son hibernation ou pas du tout ?
Alors non, pour préparer l'hibernation, il va se concentrer donc sur la période automnale. Et donc là, la grosse ressource, ça va être essentiellement les fruits secs. Donc tout ce qui est glands, les faines, donc le fruit du hêtre, les châtaignes. Tous ces fruits secs, notamment, vont lui permettre de constituer une réserve de graisse qui va ensuite, cette réserve, lui permettre de passer l'hiver sans manger et sans boire.
Donc pendant du coup de octobre à mars, enfin, de
Alors,
novembre à
ça
mars.
Ça dépend des ours et de la météo, mais en gros c'est on va dire novembre, décembre, entrée en tanière. Et puis pour les femelles notamment qui ont des petits, il y a la mise bas qui est dès le mois de janvier, février, donc c'est assez
oui,
court.
Donc
il
les
y a
femelles
quasiment
mettent
que deux mois
pendant l'hibernation.
Voilà. Ouais. Enfin juste en sortie d'hibernation du coup. Et puis les mâles qui peuvent rester au lit plus longtemps, ça peut quasiment doubler le temps de l'hibernation. Quand on a les plus courts qui font 2 mois, il y en a d'autres qui dorment pendant quasiment 4. Donc ça dépend du sexe et puis de la météo aussi, puisqu'ils s'adaptent. Les hivers très doux avec très peu de neige où il y a encore une ressource alimentaire abondante, les ours peuvent se passer d'hiberner.
D'accord.
C'est assez rare, mais ça s'est déjà vu.
Et quand ils hibernent, donc on le disait, donc les femelles par exemple restent quand même actives, puisqu'il faut quand même qu'elles mettent bas, mais ça veut dire qu'ils ne dorment pas d'un sommeil très profond. Ils peuvent sortir, mais ils ne mangent pas, ils ne boivent pas.
Non, voilà, c'est vraiment la caractéristique principale, c'est le système digestif est à l'arrêt complet. Et ça, c'est un des quasiment le seul à vraiment faire ça, puisque même des animaux réputés très très bons pour l'hibernation peuvent faire des petits réveils. Et pendant ces réveils, il y a, ils se nourrissent, alors que l'ours pas du tout. Par contre, il peut se réveiller.
D'accord.
Et quand il se réveille, il va juste sortir de la tanière, prendre un peu le soleil et puis se recoucher.
Se dégourdir.
Mais il peut faire ça parce que justement sa manière d'hiberner est assez faible. C'est-à-dire que la température de l'ours va baisser, mais que de 5 degrés, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, nous, on ne sait pas le faire. La température baisse, le rythme cardiaque baisse, mais ce n'est pas drastique. Mm. Pas comme la marmotte
qui est vraiment très
endormie pour la marmotte, alors que l'ours, on peut le réveiller. C'est pas conseillé, mais il peut se réveiller facilement.
Et donc aussi, on parlait de ces attaques qui donc avec un nombre un peu variable. Quels sont les moyens qui existent pour essayer d'éviter ces attaques?
Alors, il y a un triptyque qui est mis en avant, qui marche très bien pour la protection des troupeaux. Donc, dans un premier temps, c'est la présence humaine permanente. Donc, ça veut dire que le berger doit être protégé par le berger et guidé par le berger jour et nuit. Le berger doit être accompagné de chiens, alors de deux types de chiens, un chien de protection qui a comme rôle de repousser l'ours notamment, mais d'autres intrus au troupeau, voilà, ça c'est son rôle, c'est un rôle de protection, et puis un plus petit chien qu'on appelle souvent le chien de berger
qui va rassembler
le troupeau, parce que la journée l'idée c'est que le berger est donc présent, guide son troupeau à l'aide de son petit chien et maintient son troupeau regroupé. Comme le troupeau est bien regroupé, le chien de protection ou les chiens de protection, puisque ça dépend aussi du nombre de bêtes à garder, va pouvoir travailler, et la nuit le berger va pouvoir dormir. Le petit chien, du coup, ne travaillant pas seul, sans ordre, il ne travaille pas. Et donc, pour éviter la divagation des brebis, on préconise de les parquer la nuit avec notamment des clôtures électriques. Et dans ce cas-là, quand les troupeaux sont regroupés la nuit, le patou, puisque c'est souvent le patou qui est utilisé, donc c'est une race de chiens de protection, va pouvoir travailler également la nuit. Et dans ce cas-là, on a déjà repéré jusqu'à 90, voire plus, d'efficacité contre tout type de perte. Puisque à partir du moment où il y a une présence et une protection, on évite bien sûr les prédations, mais on évite les pertes, on évite les chutes, on évite beaucoup de pertes en mettant en place ces moyens.
Parce que outre l'attaque, même s'il n'y a pas d'attaque, c'est vrai que les brebis peuvent très bien paniquer et tomber dans une falaise sans qu'il y ait eu un animal prélevé par l'ours au final.
Voilà, il peut se passer plein de choses. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une présence permanente et de pouvoir regrouper les bêtes, ça limite quand même beaucoup, beaucoup les pertes.
D'accord. Et là, par exemple, le fait de donc ces fameux patous, par exemple, ça, il y a des subventions pour aider les bergers, les éleveurs à s'en procurer, parce que j'imagine que c'est des chiens qui coûtent un peu cher à entretenir, à nourrir, etc.
Alors, tous ces moyens de protection sont effectivement financés par l'État. En totalité ou en partie, ça dépend de la zone où se trouve l'exploitation. Mais il y a effectivement des aides pour le salaire du berger, pour l'achat et l'entretien du chien, le dressage du chien, pour les clôtures, et puis des aides aussi pour le confort du berger et pour pouvoir, pour qu'il puisse avoir un travail décent. Donc c'est la rénovation des cabanes en montagne, la rénovation des pistes, l'héliportage de matériel aussi pour lui faciliter la vie.
Oui,
quand
parce
même.
Que quand ils partent en estive plusieurs mois, c'est vrai qu'il faut un peu plus qu'un sac à dos, quoi.
Et puis autant de nos jours le berger c'est son métier, autant il y a une centaine d'années le berger c'était pas un métier, c'était plutôt une fonction, donc c'était il y avait pas le droit du travail et
les
35
payés.
Heures, voilà, les congés payés. C'est un salarié et donc il faut qu'il ait, c'est normal, des conditions de travail qui soient correctes.
Donc on peut peut-être espérer une cohabitation un petit peu meilleure à l'avenir. Du coup, pour conclure, je voulais juste voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'association et aider l'ours à notre échelle?
étant une association, on peut bien sûr adhérer et faire des dons. Ça,
c'est toujours utile.
C'est toujours utile. Ensuite, je pense que l'ours, en tout cas dans les Pyrénées, ça revient quand même souvent au détour d'une conversation. Et je pense que s'informer, avoir des informations qui sont justes, après, on peut en penser ce qu'on en veut. Mais pour pouvoir en penser ce qu'on en veut, il faut s'informer. Donc, je pense que ça aiderait et ça aide beaucoup l'association de pouvoir relayer de l'information juste et savoir prendre du recul sur ce qui peut être dit au sujet de l'ours.
Donc encore un petit peu de travail, mais petit à petit, on y vient. Merci beaucoup Adrien et merci beaucoup Montaigne d'être venu nous éclairer sur les mœurs de cet animal mystérieux. On finit par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller deux ouvrages et un film documentaire. Le premier livre est la référence francophone la plus complète pour toute approche naturaliste un peu pointue sur l'ours. Il s'agit du livre « L'ours brun, biologie et histoire des Pyrénées à l'Oural » de Pascal Etienne et Jean Lauzet, paru dans la collection Parthenope aux éditions Biotope et publié avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ce livre de 400 pages, richement illustré de photos et de dessins, se découpe en trois grandes parties. La première est dédiée à la biologie de l'animal, la seconde à son histoire, à sa relation avec l'humain, et la troisième est un guide pratique pour le terrain, très bien conçu pour identifier les traces laissées par l'ours. Le texte est clair et précis, et même si certaines parties peuvent sembler un peu techniques, l'ouvrage est agréable à lire et très accessible. Le second ouvrage de cette sélection a été d'une aide précieuse pour rédiger cette chronique qui m'a permis une approche très complémentaire au livre précédent. Il s'agit du livre « L'ours, histoire d'un roi déchu » de Michel Pastoureau, publié aux éditions du Seuil dans la collection Point. Ce livre de plus de 400 pages présente l'image de l'ours à travers les époques par le biais d'un travail de recherche monumental. Des peintures pariétales préhistoriques au culte slave païen en passant par la christianisation de l'Église, l'historien Michel Pastoureau vous emmène avec lui. Des blasons anciens aux histoires de montreurs d'ours ou des bouchers du sud-ouest spécialisés dans la viande de martin, de la viande d'ours, la représentation de cet animal mythique à travers les âges n'aura plus aucun secret pour vous. Extrêmement sourcé et très agréable à lire, cet ouvrage, comme tous les autres livres de Michel Pastoureau, est un vrai délice. Pour conclure, je ne peux que vous inviter chaudement à voyager par les images à la recherche de l'ours. En Slovénie, il y a 30 fois plus d'ours qu'en France, alors que sa superficie est bien moindre. Le film « Medved, le mangeur de miel », réalisé par Jonathan Maas et Camille Okroglitch, a l'idée d'images superbes et de musique planante, et en partie produit grâce à un financement participatif, vous emmène dans ces deux pays pour étudier comment se passe la cohabitation avec l'ours. Il donne la parole à des bûcherons, artistes, rappeurs, éleveurs, photographes des deux pays, et apporte un regard neuf sur la situation. J'ai aussi découvert grâce à ce film l'existence des fêtes slovènes et françaises autour de l'ours lors de sa projection au Festival international du film ornithologique de Ménigout en 2018. Vous pouvez commander le film sur le site du festival fifo-distribution.com. Il vaut le détour. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lonitpi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.